On a, avant de lire la parole de Dieu et la méditer, on va encore s'adresser à notre Dieu, à notre Seigneur, pour qu'il grave dans nos cœurs ce qui est nécessaire d'être gravé. Nous venons d'entendre, Seigneur, la grandeur de ton amour à travers cette capacité incroyable. On a du mal à la comprendre, cette capacité que tu as de pardonner. Te bénissons tellement, Seigneur. Que serions-nous sans ton pardon? Des morts vivants, spirituellement parlant. Et tu nous régénères, Seigneur. Tu fais de nous des hommes et des femmes vivantes. Vivant en Jésus-Christ, et nous te bénissons vraiment de tout notre cœur pour ça. Te demandons maintenant le secours de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour comprendre ce qui va être dit. Ta parole nous dépasse, et pourtant elle a été faite pour les hommes, alors que par l'Esprit Saint, que tu veux donner à chacun d'entre nous ici, que nous la comprenions tous, avec l'intelligence que tu m'as donnée, je porte de l'intelligence du cœur aussi, bien sûr, Seigneur. Sois présent au milieu de nous, Esprit Saint. Garde-nous. Amen. Amen. Voilà, je vous lirai trois textes aujourd'hui qui sont assez courts. Le premier, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. Les versets 1 à 7, Matthieu 23, versets 1 à 7. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire sont en charge d'expliquer la loi de Dieu. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères, et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi. Dans le même chapitre, on va lire les versets 23 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteurs aveugles, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Et le troisième texte que nous lirons, c'est dans Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 15. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ, tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de saints, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder ces émissions de télévision où l'on voit des filles offrir à leur mère une séance de relooking avec un coach, car elles sont désolées de les voir aussi mal fabotées? Ça vous est arrivé?
Non. Oh ben non.
Ça commence par l'achat de nouveaux habits dans une boutique de prêt-à-porter. Et après, on passe chez le coiffeur pour une nouvelle coupe et une nouvelle couleur. Et puis vient la maquilleuse. Et enfin, on passe à l'achat de nouvelles chaussures. Après tout cela, on nous fait voir la métamorphose de ce qui s'est opéré en nous montrant les photos prises avant et après. Il faut reconnaître que c'est parfois spectaculaire. Et puis le réalisateur de l'émission insiste sur les commentaires dithyrambiques et les mimiques ébahies de l'intéressé, de sa famille et de son conjoint. Super ! Ah, c'est super ! Qu'est-ce que t'en penses, Lulu ? C'est super ! 15 fois répété, super ! Faute de trouver mieux, tant l'émotion est grande de constater le changement. Mais de quel changement parle-t-on? De l'apparence extérieure, ni plus ni moins. La personne relookée est strictement la même pour ce qui concerne sa personnalité, sa façon de penser et sa vision de la vie. C'est exactement la même chose pour ceux qui ont recours à la chirurgie esthétique pour corriger un défaut physique, un défaut réel ou imaginaire d'ailleurs. L'apparence extérieure change, l'intérieur reste strictement le même. Ce matin, à la lumière des textes que nous avons lus et des anecdotes sur le relooking, je voudrais que nous prenions clairement conscience de la différence radicale qui existe entre la religion et la foi. C'est même plus qu'une différence. Ce sont deux choses contraires. Comme l'a écrit Karl Barth, un théologien célèbre protestant et suisse qui est décédé en 1968. J'entends par religion ce que Jésus dénonce dans l'attitude des scribes et des pharisiens de notre texte. Bien sûr, frères et sœurs, ceci concerne tous les hommes de toutes les époques. Pour faire comprendre la différence entre la religion et la foi, j'emploierai deux adjectifs, extérieur et intérieur. La religion affecte seulement l'extérieur de l'homme, tandis que la foi transforme l'intérieur de l'homme. La religion peut être comparée à une médaille épinglée sur le revers d'une veste, par exemple comme le signe du poisson que là j'ai sur ma veste, que les chrétiens charismatiques affectionnent particulièrement, ou bien la croix huguenote pour affirmer son protestantisme, ou bien la croix normale de nos frères catholiques. Ces signes d'appartenance à une religion peuvent n'être rien d'autre que des bouts de métal, même si c'est en or. Et pourtant, beaucoup de nos contemporains qui les portent ont tendance à les confondre avec la foi. C'est ainsi que l'on peut interpréter le sondage IFOP de 2011 qui indique que 61% des Français se disent catholiques. Si tous avaient la foi, ces 61%, les prêtres ne se plaindraient pas que leur église soit vide. Je me souviens et je connais une église réformée qui compte 2000 membres sur son fichier. Et pourtant, lorsqu'il y a 50 personnes au culte, le pasteur est très content. Ces deux exemples nous prouvent que beaucoup confondent foi et religion. Dans quel sens est-ce que j'affirme que la religion n'affecte que l'extérieur de l'homme ? Dans l'attitude qu'adoptent les scribes et les pharisiens de notre texte, on voit bien qu'il n'y a aucun lien entre leurs actes et les enseignements qu'ils délivrent eux-mêmes aux foules. Tout ce qu'ils font, nous dit Jésus, c'est, je cite, « pour être vu des hommes ». Ils élargissent leurs phylactères. Les phylactères, c'est ces bandes de cuir qu'on se met autour du bras sur lesquelles sont inscrits des versets de l'Évangile. Ils élargissent leurs phylactères pour que ça se voit plus, quoi. Ils agrandissent les franges de leurs vêtements. À l'origine, le but de porter ces signes était de garder fidèlement le souvenir des commandements de la Torah. Ces personnages ont perverti ce but pour en faire un motif d'orgueil, un signe distinctif pour se faire remarquer, pour faire croire aux hommes qu'ils sont vraiment de bons croyants. Et le verset 25 et 26 que je vous ai lu aussi sont encore plus éclairants sur l'opposition entre religion et foi. Je relis. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. » Alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance, pharisiens aveugles, purifient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Vous avez compris que le dehors de la coupe et du plat, ce sont nos actes et nos comportements qui ne sont en fait que des masques trompeurs. L'intérieur, c'est notre être profond, celui que le Seigneur veut transformer pour que nous lui appartenions vraiment. La religion est souvent perçue comme un code moral, comme une empêcheuse de tourner en rond, au même titre que la loi civile. Les deux disent, je simplifie bien entendu, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Ces lois sont justes, et pourtant beaucoup les enfreignent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont perçues comme contraignantes. Pour ne prendre que des exemples dans la loi civile, je mentionnerai le respect des limitations de vitesse, l'obligation de s'assurer lorsqu'on achète un véhicule, l'interdiction de pirater des logiciels ou les CD, de musique, le devoir de fidélité dans le couple, l'obligation de déclarer tous ses revenus au fisc, l'obligation d'acheter un billet lorsqu'on prend le train ou le métro, et je pourrais en ajouter beaucoup d'autres. Beaucoup trichent en espérant ne pas se faire prendre. Ils se justifient, ils justifient leur tricherie en disant que la loi est injuste, ou bien inadaptée, ou que les choses sont trop chères. Beaucoup ont envie de tricher. Et ce qui les retient, c'est la peur de se faire prendre. Ils respectent la loi uniquement par peur de la sanction, mais pas par conviction. Ces exemples montrent à l'évidence que beaucoup d'hommes considèrent ces lois comme des contraintes qui empiètent sur leur liberté. Alors, dès qu'il y a une possibilité d'échapper à la loi sans risque, ils ne la respectent plus car leur être profond n'est pas en accord avec cette loi. J'en tire la conclusion suivante. Parce qu'elle concerne l'extérieur de l'homme, la religion n'a jamais changé et ne changera jamais le cœur de l'homme. Pour qu'un homme change, il faut que l'intérieur de cet homme change, c'est-à-dire son cœur, son être profond. Le peuple d'Israël avait bien reçu les 10 commandements. On voit ça dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Ces lois étaient gravées. Elles étaient gravées sur 2 tables de pierre. Tout le peuple les connaissait. Et pourtant, on ne compte plus les fois où il a désobéi à ces lois. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient extérieures au cœur de l'homme. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que les hommes considèrent ces lois non comme une contrainte, mais comme le chemin de la liberté ? Eh bien, il va les graver directement sur leur cœur, sur un cœur nouveau. Je cite, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de chair, j'ôterai de votre chair, pardon, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » C'est dans Ésaïe 36, 26. Cette image très concrète de la transplantation d'un cœur nouveau, Paul la reprend avec ces mots à lui. « Si donc vous êtes ressuscité, dit-il, que veut-il dire ? » Je le laisse parler dans Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pour pouvoir regarder les commandements de Dieu comme une liberté, comme une grâce, et non comme une contrainte, il faut d'abord mourir à soi-même. Notre vieille nature, notre vieil homme prisonnier du péché et attiré par le péché doit d'abord mourir. Comment ? En reconnaissant notre péché, en demandant pardon à Dieu et en croyant que Jésus, par sa mort sur la croix, a payé à notre place les conséquences de notre péché. Le mouvement de la foi, c'est de mourir à notre vieille nature avec le Christ, pour renaître à une nouvelle vie avec le Christ. Bien sûr, cette mort à nous-mêmes et cette résurrection à une vie nouvelle ne sont possibles et ne prennent leur véritable sens que dans la foi à la mort expiatrice de Jésus à la croix et à sa résurrection. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 2, versets 2 et 4, 10. Cette nouvelle nature en Christ, Cette naissance spirituelle va progressivement nous détacher de l'attirance du péché et nous le faire prendre en horreur. Elle va aussi nous faire prendre conscience de nos attitudes religieuses, de l'hypocrisie de nos attitudes et de nos propos pieux, qui peuvent peut-être tromper les hommes, mais qui ne trompent pas Dieu. Lorsque par la bouche d'Ésaïe, Dieu fait dire à son peuple, je cite, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. » Déjà là, quand on dit Sodome, ça tend à quelque chose de dur. Là, hein. « Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. » Ésaïe 1.11. Pourquoi Dieu dénigre-t-il les sacrifices qu'il a lui-même ordonné de faire? Dieu ne dénonce pas les sacrifices eux-mêmes, mais l'esprit dans lequel beaucoup les faisaient. Il dénonce l'esprit religieux qui consistait à offrir des animaux malades, boiteux, à la place d'animaux sans défaut et sans tache, dans le seul but de se faire passer pour un bon observateur de la loi de Moïse. Alors, comme Dieu le dit un tout petit peu plus loin dans le texte que je vous ai lu, alors que leur cœur n'enfantait que des actes mauvais. Ésaïe 1.16. La religiosité, n'est pas l'apanage des croyants de l'ancienne alliance. L'esprit religieux guette aussi les croyants de la nouvelle alliance aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu, que n'a pas eu Dieu la nouvelle naissance. En effet, avec la nouvelle naissance, cette loi de Dieu qui était extérieure à nous et qui nous paraissait une contrainte va prendre vie maintenant à l'intérieur de nous. Elle fait partie intégrante de notre nouvelle nature en Christ. Et nous comprenons et expérimentons que c'est une loi libératrice. Désormais, lorsque nous sommes tristes par rapport à la loi de Dieu, cela ne vient pas du fait que nous devons nous y soumettre, mais bien plutôt parce que nous y désobéissons. C'est un renversement total de la vision des choses. La nouvelle naissance nous garantit-elle que nous n'aurons jamais plus d'attitude religieuse? Non. Mais la grande différence avec avant, c'est que maintenant nous prenons conscience que nous offensons Dieu sans relativiser la gravité de l'offense et sans chercher d'excuses. Ensuite, cette offense, elle devient insupportable pour celui en qui le Saint-Esprit règne et il agit en conséquence en demandant pardon à Dieu. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme qui reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur. Mais pas plus qu'avant cette nouvelle naissance, l'homme n'est programmé pour obéir. Dieu lui laisse toujours le choix. Et aussi longtemps que le Christ ne sera pas revenu, aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, les puissances des ténèbres n'auront de cesse d'essayer de nous faire revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle Jésus nous exhorte, je cite, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. C'est aussi la raison pour laquelle Paul nous exhorte à ne pas être passifs, mais à se servir de notre volonté pour obéir à la loi de Dieu. Je cite, « Recherchez d'un impératif. Recherchez les choses d'en haut. Faites mourir votre nature terrestre. Rejetez la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières. Revêtez-vous d'ardente compassion. Même si le Saint-Esprit est actif, la foi mobilise la volonté de l'homme. Et alors, c'est un cercle vertueux qui se met en place. La religion peut se réduire à simplement une pratique. Aller à la messe ou au culte, faire baptiser ses enfants, se marier à l'église, pour faire plaisir à la famille. À la limite, il n'y a pas besoin de croire. Lorsqu'on est dans le registre de la religion, on peut faire toutes ces démarches par pur formalisme. La foi, c'est tout autre chose. C'est une relation vivante entre Dieu et l'homme. Cette relation est voulue par Dieu et vitale pour le salut de l'homme. Elle a donc un ennemi, Satan, qui veut détruire ce que Dieu construit. Mais le croyant est assuré que si Satan a encore de la puissance dans ce monde, Christ l'a définitivement vaincu à la croix. En communion avec Christ, le croyant est aussi vainqueur des puissances des ténèbres. Je cite, « Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. » C'est une promesse, et ce n'est pas un pasteur qui l'a fait. C'est dans Luc 10-19. Alors, frères et sœurs, approprions-nous cette promesse de Jésus et soyons certains que les exhortations de Paul ne sont pas utopiques, mais elles sont réalisables pour celui qui a la foi. Car c'est l'Esprit Saint qui agit avec le plein consentement de l'homme. J'aimerais maintenant que nous nous placions un instant devant le Seigneur pour lui demander qu'il nous fasse la grâce de nous montrer ce qui est encore du domaine du religieux et de l'hypocrisie dans notre relation avec lui. Demandons-lui d'extirper jusqu'aux racines les plus profondes de nos pensées, de nos actes et de nos paroles ce qui s'apparente plus à la religion qu'à la foi. Avec une certitude, si nous sommes sincères, soyons sûrs que cette prière sera exaucée. Dieu ne nous condamne pas. Il veut simplement nous faire prendre conscience. Il veut nous délivrer. Il veut nous guérir des sentiments religieux qui n'ont rien à voir avec la foi. Voilà, restons un moment dans le silence. Un silence habité, comme le Seigneur nous le montrera à chacun d'entre nous. Amen.